Quand Jésus apparaît à Thomas dans l'évangile de Jean, Thomas a une expression tout à fait intéressante. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » quand il voit donc apparaître Jésus. Et ce « Mon Seigneur et mon Dieu » pose beaucoup de questions parce que c'est le seul endroit où Jésus semble être appelé ouvertement Dieu. Vous savez que c'est un grand débat dans le christianisme de savoir si Jésus est Dieu, s'il est Dieu et homme, s'il est un peu Dieu ou pas complètement Dieu ou homme seulement. Enfin, c'est une grande question. Jésus n'est jamais appelé directement Dieu. Il lui est souvent attribué des choses plus ou moins divines. Mais en tout cas, là, c'est le seul endroit où apparemment il y a une phrase absolument explicite qui semble l'appeler Dieu. La chose est complexe, parce que dans l'évangile de Jean, souvent, Jésus est vraiment poussé du côté de Dieu. Il y a un autre passage qui semble clair, qui est celui où Jésus dit en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, certes, c'est assez clair, le problème, c'est qu'un peu plus loin, Jésus dit que lui et le Père sont un, mais qu'il invite aussi ses disciples à faire un avec lui, afin qu'il soit un en nous et qu'il soit un en toi, que finalement ça commence à faire une trinité un peu importante, parce qu'il faut y mettre à la fois Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les disciples. En tout cas, on ne peut pas en conclure directement que, assimiler, je dirais, Jésus au Père. Alors cela dit, il y a aussi dans Jean d'autres passages, en particulier celui où Jésus dit, en Jean 14, « Qui m'a vu a vu le Père ». Donc, on peut dire là, Thomas voit Jésus ressuscité, donc il voit Dieu. Mais là encore, ça peut être compris de façon différente. Et puis, il y a surtout le prologue de Jean, qui commence en disant « En commencement était la parole, et cette parole, c'était la parole de Dieu, cette parole, c'était Dieu lui-même en tant qu'acte créateur ». Et on nous dit que cette parole qui est Dieu, elle s'est incarnée dans un homme, Jésus-Christ. Mais bon, en tout cas là, la chose est compliquée et vous le savez, j'ai quelques réticences à assimiler brutalement Jésus à Dieu parce que je crois qu'il faut faire attention à ne pas être dit théiste. Il y aurait un Dieu dans le ciel et un Dieu sur la terre, il y aurait un Dieu Père et un Dieu Fils. Tout cela est un peu trop compliqué pour moi et j'ai du mal à m'y faire. Alors ce que l'on peut dire éventuellement de ce passage, il y a plusieurs façons de le comprendre. D'abord, on peut effectivement le prendre au sérieux et dire « Thomas explicitement appelle Jésus Dieu, mais ça ne veut pas dire que Jésus de Nazareth soit Dieu, parce qu'il ne le dit pas au Jésus terrestre, il le dit au Christ ressuscité. » Donc ça, c'est différent, parce qu'il faut faire la distinction entre le Jésus historique, le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire le Jésus de Nazareth, qui se promenait en Galilée avec sa barbe et ses sandales, et puis le Christ ressuscité, qui est une entité spirituelle, divine, invisible, d'une certaine façon. Parce que le Jésus de l'histoire, il est né, il a vécu et il est mort sur la croix. Le Christ ressuscité, il est vivant parmi nous aujourd'hui. Et quand on annonce le Christ, il est vivant parmi nous. Comme il a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc aujourd'hui, le Christ ressuscité est vivant ici même, mais il n'est pas visible. Donc il ne s'agit plus de l'homme Jésus de Nazareth, mais du Christ ressuscité. Et ainsi, je suis prêt à dire que si Jésus de Nazareth n'était pas Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne portait ni barbe ni sandales, néanmoins, le Christ ressuscité, il est retourné à Dieu, il n'est que dans sa dimension spirituelle, et donc il est Dieu, en quelque sorte, je peux le dire. Et puis, on pourrait aussi d'ailleurs voir que ce serait assez cohérent, parce que, en fait, le passage que je vous ai lu, à l'origine, concluait l'évangile de Jean. C'est-à-dire que le chapitre 21 a été ajouté tardivement, ça on le sait. Et ainsi, l'évangile de Jean ferait comme une sorte de grand portique qui commencerait par le Verbe éternel, la parole éternelle de Dieu, qui est Dieu, qui s'incarne en Jésus-Christ, qui vit terrestrement présent dans la personne de Jésus de Nazareth. Ensuite, la personne de Jésus de Nazareth, elle est exite par la croix et il ne reste que le Christ ressuscité qui, lui, est bien Dieu. Donc, on a Dieu dans le ciel qui se rend présent dans un homme Jésus-Christ et qui ensuite retourne au ciel et redeviendrait Dieu pour la fin. Bon, ça c'est assez beau, Mais néanmoins, les théologiens ne manquent pas de ressources et certains ont tout simplement refusé de lire ce « Mon Seigneur et mon Dieu » d'une façon aussi explicite en disant qu'on peut contourner l'affaire. D'abord, certains ont dit que ce « Mon Seigneur et mon Dieu » de Thomas n'était pas, ne s'adressait pas à Jésus, c'était une sorte d'exclamation. Un peu comme si Thomas voyait arriver Jésus et il disait « Mon Dieu, Jésus !» Bon, ça ne veut pas dire qu'il appelait Jésus Dieu, mais c'est une sorte d'exclamation. Et ils ont, pour valider la chose, vous savez qu'en grec, il y a des déclinaisons des mots, nominatif, accusatif, etc. Et là, le « Mon Seigneur et mon Dieu » est mis au nominatif, « Theos mou ke kyrios mou ». Alors que s'il s'adressait à Jésus, il aurait mis un vocatif, « Kyrie mou ». Et ainsi, comme ce n'est pas un vocatif mais un nominatif, c'est juste une exclamation de la part de Thomas. Bon, je vous le livre comme ça. Personnellement, je crois que c'est un peu simplet et ça ne me convainc pas trop, même pas du tout. Plus subtil, il y a une troisième solution. La troisième solution, ça a été remarqué depuis longtemps par les exégètes, c'est que, en fait, cette expression « Mon Seigneur et mon Dieu » est une citation explicite du verset d'un psaume, qui est le psaume 35 au verset 23, quand on trouve exactement cette même expression « Mon Seigneur et mon Dieu ». Encore que, bon, pas tout à fait, parce que c'est dans l'autre sens, c'est « Mon Dieu et mon Seigneur », mais on retrouve sinon exactement ces deux choses à coller. Et là où c'est intéressant, c'est que dans ce verset 23 du psaume 35, il est écrit la chose suivante. « Réveille-toi, Seigneur, et relève-toi pour établir mon droit, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. » Voilà. Et donc, du coup, on voit, chose très intéressante, qu'il est question dans ce psaume de se réveiller et de se lever. Ce qui sont les deux termes de la résurrection. Donc, je pense que là, on tient un fil assez subtil. Il s'agit bien, à mon avis, de quelque chose qui touche à la question de la résurrection. Mais là où c'est très curieux, c'est que qui doit se lever et se réveiller dans ce psaume, ça n'est pas Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que le psalmiste se croit abandonné par Dieu et il dit à Seigneur, « Réveille-toi, lève-toi mon Dieu, fais quelque chose, interviens, viens me défendre, viens faire quelque chose » parce qu'il a le sentiment d'être abandonné. Et donc c'est un appel, je dirais, au réveil de Dieu, que Dieu revienne et que Dieu se relève. Et ainsi, je crois que Thomas était dans cette situation, comme les disciples, avec la mort de Jésus, il se croyait abandonné. Il se disait, comme dans les disciples d'Emmaüs, on a cru que Dieu viendrait nous sauver, qu'il enverrait son Messie, et puis voilà que Jésus est mort comme un gueux et que tout est terminé. Donc ils ont l'impression tout à coup que la mort efface tout, annule tout, invalide tout le message du Christ, tout l'Évangile, tout ce en quoi ils avaient cru devient tout à coup caduque. Et tout à coup, ils découvrent qu'en fait, Christ est vivant spirituellement, bien sûr, mais ils découvrent que tout cela n'est pas mort, et tout à coup, ils découvrent que Dieu vient à leur aide, et qu'il y a un mode de présence qui est d'une autre manière, qui est une présence spirituelle, comme Jésus qui souffle son esprit sur eux, dit le texte. Donc il leur donne cet esprit de la présence de Dieu qui met la vie en nous et qui nous permet de nous relever, de revivre, de prendre confiance et d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, Thomas comprend que Dieu ne les a pas abandonnés, mais qu'il s'est bien relevé, qu'il est venu, qu'il défend leurs droits et qu'il défend leur cause. Et donc il cite ce psaume 35, « Mon Seigneur et mon Dieu, tu es venu à mon secours pour défendre mon droit et pour sauver ma cause. » Voilà. Et donc, effectivement, je pense que cette solution me semble plus subtile parce que les deux premières que je vous ai exposées sont un peu brutales. L'une qui consiste à assimiler Jésus à Dieu, discutable. L'autre qui consiste à refuser le verset par une pirouette me semble un peu artificielle. Mais là, il y a, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus profond et de plus subtil. Parce que du coup, effectivement, Thomas comprend que Dieu est présent et que malgré les apparences, dirais-je, Dieu est présent et il est à l'aide dans notre temps. Mais cela ne résout pas l'autre question de ce texte, qui est de savoir comment Thomas a-t-il cru ? C'est-à-dire, comment a-t-il découvert que Dieu était présent, justement ? Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu Jésus ? Est-ce que c'est parce qu'il a mis ses mains et ses doigts dans les plaies ? Les tableaux, de nos anciens tableaux, montrent Thomas qui met la main dans la plaie. D'après l'Évangile, il semble qu'il n'ait même pas eu besoin de le faire et qu'il ait immédiatement proclamé sa foi. Mais toujours est-il que ce Thomas reste un peu un mystère. Et d'une certaine façon, le pauvre, on l'affuble, du rôle d'être une sorte d'exemple d'incrédulité. Celui qui dit « moi, je ne crois que ce que je vois ». Et finalement, peut-être même d'archétype de l'esprit moderne, de ces gens qui disent « vous savez, moi, je suis très pragmatique, je suis rationnel, je crois dans la science, je ne crois que ce que je vois ». Et là, nous avons dans la Bible, je crois, une réponse assez intéressante à cette question de savoir « est-ce que l'on croit que ce que l'on voit ?». Je dirais d'abord que, avant d'entrer dans des considérations théologiques, dire « je ne crois que ce que je vois » est une imbécilité, une idiotie, et n'est que la preuve d'un manque total de science. Vous savez, on dit « un peu de science éloigne de la foi, beaucoup de science en rapproche ». Je crois que c'est vrai, et on sait aujourd'hui par la physique contemporaine, et en particulier la mécanique quantique, que le monde est fondamentalement très différent de ce que l'on croit en percevoir. Et qu'on a, nous, l'impression que les choses fonctionnent d'une certaine manière, mais quand on s'intéresse au monde du microscopique, on tombe dans un monde complètement invraisemblable, où on voit que le monde matériel n'est absolument pas comme on le pense. Et vous savez qu'on trouve, en particulier dans la mécanique quantique, des particules matérielles qui peuvent être à deux endroits à la fois. Donc, moi, je ne crois que ce que je vois, on ne peut pas avoir le don d'ubiquité. Eh bien, la matière a le don d'ubiquité. C'est comme ça, vous voyez. Donc ça, on le sait, et vous ne le voyez pas. Et on sait que même une même particule peut être à deux endroits différents et qu'elle peut même interagir avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut se cogner à elle-même. Ça, c'est quand même très étrange. Eh bien, c'est vrai. Pourtant, vous ne vous en rendez pas compte. On trouve aussi dans la mécanique quantique des particules qui communiquent entre elles sans aucun signal physique. Alors vous dites la transmission de pensée, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Eh bien si, la matière peut communiquer à distance sans aucun signal physique. Bon, et puis ça continue, on se rend compte que la matière en fait est en fait fondamentalement indéterminée et qu'elle ne se détermine qu'au moment où on l'observe, ce qui fait que les physiciens tombent dans des affres de complexité avec en particulier une histoire bien connue qui est le chat de Schrödinger, qui est un grand physicien, dont on dit que le chat de Schrödinger pourrait finalement être à la fois vivant et mort. Alors ça continue de faire couler des litres d'encre pour essayer de savoir comment le chat de Schrödinger peut être à la fois vivant et mort, contrairement à ce que l'on pourrait y penser. En tout cas, j'ai observé que, curieusement, les grands physiciens, et même les prix Nobel de physique, les grands chercheurs, etc., eh bien, sont les premiers à plonger dans le monde du paranormal et à croire des choses complètement farfelues. Donc, tout simplement parce qu'ils ont vu, je ne dis pas qu'ils ont raison de plonger dans le farfelu du paranormal, mais ils ont découvert que le monde n'est absolument pas ce que l'on en voit, et que nous n'avons qu'une vision très réduite du monde. La réalité dépasse infiniment ce que nous pensons savoir d'elle. La réalité est d'une complexité extrême. Elle est tout à fait au-delà de l'image que nous pouvons en avoir, et les choses sont beaucoup plus compliquées, même matériellement, que ce que nous croyons. Donc ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois », je reprends mon mot, ne sont peut-être pas des imbéciles, mais sont juste des ignorants. C'est-à-dire qu'ils n'en savent pas suffisamment pour comprendre que ce qu'ils voient n'est qu'une apparence trompeuse d'une réalité qui dépasse infiniment l'apparence qu'elle donne. Donc voilà, je crois que ce que je vois est simplement, évidemment, impossible. Et d'autre part, Je pourrais aller plus loin encore en disant que là, je n'ai parlé que du monde matériel, mais quand on commence à parler de l'âme, c'est-à-dire même de l'esprit humain, de l'intelligence, de la conscience, toutes ces choses que la physique ignore complètement, et même la biologie, est incapable de dire ce qu'est la conscience de soi. Quand on arrive sur le fonctionnement de l'âme humaine, ou même de l'esprit des animaux, ça devient d'une complexité incroyable, et je crois que l'âme humaine et l'esprit du vivant n'a pas cessé de nous surprendre, et en tout cas est aussi tout à fait au-delà de ce que l'on peut penser. Il y a là une complexité incroyable que nous ne faisons qu'effleurer du doigt. Par conséquent, il faut accepter, je crois, bien que moi je sois très fondamentalement, je dirais rationnel, et je ne sombre pas dans le paranormal, mais j'accepte que les choses soient certainement plus compliquées que ce qu'elles semblent être, et qu'en tout cas il faut laisser la porte ouverte à l'extraordinaire et au miraculeux de ce qui nous semble pas normal. Donc autrement dit, Thomas avait tort. Même physiquement et matériellement, le monde n'est pas ce qu'on en voit, et je dirais que spirituellement, il avait encore plus tort, parce que je crois que l'essentiel, comme dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, et que par conséquent, laissez ce qui est visible aux physiciens, et pour vous, dans votre vie, essayez de quêter l'invisible. L'invisible qui, justement, est ce qui est au-delà du matériel, au-delà du physique. L'invisible qui est précisément ce qui ne se voit pas, ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se monnaie pas, ne se décerne pas par un diplôme. L'invisible qui est le mystère de l'âme, le mystère de l'humain, qui est l'amour, qui est la grâce, qui est la tendresse. L'invisible qui est tout ce qui est un être qui est au-delà de ce que son enveloppe charnelle semble être. Donc oui, il y a un invisible au-delà du visible. Et Paul, bien sûr, a raison de dire « Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont pour un temps et les invisibles sont éternelles. » Donc Thomas est un imbécile, c'est un matérialiste, je dirais, simplet, qui dit « Je ne crois que ce que je vois, mais c'est idiot !» Ce que l'on voit, ce n'est pas objet de croyance. Moi, je crois dans ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire ce qui est au-delà des apparences. Je crois justement dans l'invisible qui est essentiel et qui est au-delà de tout. Alors Thomas, effectivement, donc, s'est trompé. Et quant à la résurrection, eh bien, il s'est dit, moi, je veux croire uniquement ce qui est visible. Mais la résurrection, elle est justement de l'ordre de l'invisible, enfin, je crois. D'ailleurs, vous savez que Jean, dans l'évangile de Jean, on nous dit que Jean court vers le tombeau. Là, Pierre entre dans le tombeau, il voit que Jésus n'y est plus. Et l'évangile de Jean dit, Jean entra dans le tombeau, il vit et il crut. Alors question, il vit quoi? Il vit rien. Et c'est parce qu'il ne vit rien qu'il crut. C'est-à-dire que dans le tombeau, il n'y avait rien à voir. Et la foi dans la résurrection, c'est ça. C'est pas de se dire « je vois Jésus ressuscité », c'est de dire « je vois qu'il n'y a plus de corps du Christ ressuscité » et que justement, le Christ est devenu invisible. C'est pour ça que Jésus dit à Thomas, il lui dit « toi, tu as vu et tu as cru, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce que ceux-là, ils ont tout compris ». Que justement le Christ ressuscité est de l'ordre de l'invisible. Parce que l'essentiel dans la foi, je vous l'ai dit, ce n'est pas le physique, mais c'est le spirituel, c'est l'invisible. Et la foi, c'est s'attacher à tout cet invisible de notre vie. Et je pense que, effectivement, pour que cet immatériel puisse être vu, il faut quelque chose qui est de l'ordre du vide. Et donc, quand Jean voit dans le tombeau qu'il n'y avait rien, il voit rien. Et cette idée de voir le rien pour voir l'essentiel me semble intéressante. En effet, je crois que cet invisible est tellement ténu, tellement subtil, qu'il faut, Ils ne se voient que si, d'une certaine façon, le matériel se retire. Tant qu'ils étaient avec Jésus, eh ben, c'était leur pote, c'était leur copain, ils buvaient des coups ensemble et tout ça. Et il a fallu que Jésus se retire physiquement pour qu'il découvre ce qu'il y avait d'invisible et d'éternel en lui. Et ça, c'est un travail absolument essentiel à faire. Mais c'est vrai, pas seulement à l'égard de, je dirais, de Christ ou de ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. C'est vrai aussi à l'égard de la réalité spirituelle. Si vous voulez trouver cette dimension éternelle et spirituelle qui vous est promise, eh bien, il faut à un moment donné retirer le matériel, que le matériel fasse place à autre chose. Et je pense que Dieu se révèle à nous finalement dans le vide, c'est-à-dire dans le silence et pas dans le plein. Pas dans le plein d'activité. Si on n'arrête pas d'agir, on n'entend pas Dieu qui nous parle. Dieu ne se révèle pas non plus dans le plein, je dirais même dans le plein de bonnes œuvres, mais parfois dans le temps de ne rien faire. Et là, les Juifs ont une idée très, très formidable quand ils disent le summum du jour du Seigneur, c'est le sabbat et je ne fais rien. Parce que Dieu se révèle quand on lui laisse une place, quand on arrête d'agir, quand on fait silence, quand au lieu de toujours intervenir, on essaye de recevoir, qu'on s'assied et qu'on écoute. C'est là que l'on peut trouver l'essentiel. C'est la disponibilité. Sinon, on est toujours dans l'action, comme Marthe qui faisait la vaisselle, le ménage, le machin, et Marie qui ne fait rien, qui s'assied et qui écoute. Là, elle entend la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et je voudrais continuer cette métaphore du plein et du vide en disant que, contrairement même à ce qu'a parfois enseigné la religion, on ne peut vraiment saisir le spirituel que dans les creux, et pas dans les pleins, même pas dans les pleins de croyance. Il n'est pas certain que ceux qui sont bourrés de croyance et de certitude soient plus pleins du Saint-Esprit que les autres. Au contraire, on ne trouve pas Dieu dans le plein de doctrine, mais parfois aussi dans les questionnements, justement, dans les questionnements, dans les interrogations, dans les recherches. Et c'est quand on est dans l'attente, dans le questionnement, dans la soif d'une réalité, que Dieu peut venir et se révéler à nous. Sinon, il n'y a pas de place pour lui. Comme le petit Jésus qui arrive, et il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, c'était bourré. Alors il va dans la crèche où il y avait de la place. Et donc Dieu ne se révèle pas non plus dans le plein de la bonne conscience, de toutes les bonnes choses que j'ai faites. Non, il se révèle peut-être d'autant plus dans le sentiment du croyant, de sa propre impuissance, de sa difficulté à se tourner vers un autre. Et c'est pourquoi Jésus a dit aussi cette béatitude: heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui pleurent, parce que ceux-là, il y a de la place pour eux, pour accueillir une réalité qui est au-delà. Donc oui, le sens de l'Évangile, ce n'est pas d'être sans arrêt plein de ceci, plein de cela, mais c'est de se savoir pauvre et de vouloir avancer. Heureux celui qui n'a pas tout, parce que justement c'est ce manque qui peut le pousser à avancer. Et même spirituellement, je dirais que la foi, c'est peut-être justement de prendre conscience qu'on ne comprend pas tout, prendre conscience qu'on ne sait pas tout. Et la foi, c'est être face à une sorte de mystère qui nous dépasse et de dire: oui, il y a là quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse et qui me surplombe. Et c'est la foi, c'est malgré ce manque, malgré cette incertitude, malgré ce mystère, c'est choisir d'y aller et de dire: je ne comprends pas très bien, mais je crois que c'est important et j'y vais. C'est-à-dire, c'est choisir de miser précisément sur ce manque, sur ce mystère et sur cette chose qui nous dépasse. Et il y a dans la foi un engagement, une audace que je trouve extraordinaire, qui est justement de miser dans, non pas dans la sécurité, dans le visible, dans le prévisible, mais dans l'insécurité, dans l'incompréhensible et dans l'invisible. Parce que c'est comme Abraham qui part sans savoir où il allait. parce que c'est justement là mettre sa confiance en Dieu et croire dans celui qui nous surplombe. Et justement, Jésus a raison de dire « heureux celui qui croit sans avoir vu ». C'est vrai ça, parce qu'alors on peut faire confiance dans ce Dieu qui nous guide et nous conduit. Et moi je sais, comme dit Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais, comme dit ce psaume que j'ai cité, que Dieu prendra soin de moi et que Dieu toujours sera debout à mon côté. Il prend soin de moi comme il prend bien soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Alors ne vous inquiétez pas du lendemain. Avec Dieu, vous aurez toujours assez de ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, donc, il faut laisser un espace, je vous disais, pour que l'esprit puisse souffler. Il faut laisser un espace de créativité. Il faut accepter de ne pas tout planifier, de ne pas tout prévoir. Sinon, on n'est plus dans une œuvre divine, mais dans une œuvre humaine à vue courte que l'on construit. Et ça m'amène à cette conclusion très, 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 très curieuse de ce chapitre. Quand il dit, et je n'y ai jamais prêté attention, il conclut donc l'évangile de Jean en disant, « Vous savez, Jésus a fait encore plein d'autres choses que je ne vous ai pas dites. » C'est-à-dire, il dit, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'évangile. Et donc, le dernier mot de l'évangile de Jean, avant cet ajout du chapitre 21, c'est justement un manque. Et de dire, l'évangile n'est pas complet. Il y a du manque. Il reste des choses à construire, parce que on n'est pas, vous voyez, dans une sorte de religion du livre qui aurait clos tout ce qu'il faut savoir sur le Christ. Il faudrait tout apprendre par cœur, le croire et se fonder dessus. Mais l'évangile, il y a des manques, des choses qui sont au-delà de ce qui est écrit. Et donc, on n'est pas dans un schéma obligatoire pour la foi, mais on est là encore dans l'espace et dans l'ouverture. C'est-à-dire que l'évangile ne bloque pas, si vous voulez, ce que l'on peut savoir sur le Christ. Il y a des choses que l'on peut savoir sur le Christ et qui ne sont pas dans l'évangile. Et ces choses-là, eh bien, c'est justement ce que vous allez, vous, expérimenter. Et heureux celui, pourrais-je dire, qui ne construit pas sa foi seulement sur ce que disent les autres ou sur ce qu'a dit l'évangile, mais qui construit sa foi sur sa propre expérience de la découverte du Christ. Et tenez, c'est peut-être ça finalement Thomas. Thomas, il n'est pas si bête, parce qu'on en a fait un exemple d'incroyant. Mais en fait, Thomas n'est pas du tout un incroyant. Ce qu'il refuse de croire, c'est le discours des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres arrivent en disant « Voilà, moi je vous dis, Jésus est ressuscité. » Et Thomas dit « Écoutez, votre discours, je m'en moque. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer le Christ lui-même. » C'est-à-dire que Thomas n'est pas un incroyant, c'est juste un anticlérical. Il ne veut pas mettre sa confiance dans le discours de l'Église. Et il dit « Ce qu'en disent les autres, je m'en fiche. » Il privilégie l'expérience personnelle. Et ainsi, Thomas a raison, parce qu'il dit que lui, pour lui, l'important, c'est justement ce que les apôtres n'ont pas dit et qu'il pourra expérimenter. Si on en reste dans le discours de l'Église, eh bien, on est comme les apôtres, il y a une sorte de révélation collective, alors que Thomas est le seul qui aura droit à une révélation personnelle, pour lui tout seul, justement parce qu'il n'est pas resté au discours de ces témoins autoproclamés, de ceux qui prétendent tout savoir sur l'Évangile et qui veulent nous l'imposer. Thomas a raison, il faut croire soi-même, voilà. Il faut avoir le courage de dire « Votre discours, je l'écoute d'une oreille attentive et éventuellement même distraite. Moi, je veux découvrir ce Christ qui est celui que je vais rencontrer. » Et il va valider cette rencontre personnelle qu'il pourra faire avec le Christ. Thomas fait œuvre de créativité, de construction personnelle. Et nous avons le droit de faire notre propre foi, parce que la foi, ce n'est pas juste d'adhérer à un discours clos, qui soit celui des apôtres, même de la Bible ou de l'Église, mais c'est de découvrir soi-même ce que Jésus est pour nous. Parce que le Christ ne se trouvera pas seulement dans un texte vieillot, mais il est aussi dans l'actualité, et c'est un évangile que nous écrivons jour après jour dans notre relation au Christ. Donc oui, le Christ ne se limite pas à l'évangile. C'est une thèse qu'on pourrait appeler pour plagier les vieux théologiens de la Renaissance, un extra evangelicum. Jésus dépasse l'évangile. Et le sola scriptura des réformateurs est faux, puisqu'il y a l'écriture, mais que Jésus, heureusement, dépasse l'écriture et n'y est pas enfermé. Donc oui, il faut trouver Jésus dans sa vie, ne pas le laisser dans sa tombe, ne pas scruter indéfiniment l'évangile pour essayer de le chercher, mais il faut le chercher dans la rencontre, parce que le vivant déborde le texte et il peut faire pour nous des merveilles. Et je crois que Jésus ressuscite différemment pour chacun. On n'est pas dans une présence objective qui fait que chacun devrait croire au Christ ressuscité de la même manière. Et d'ailleurs, lisez les quatre évangiles. Les quatre évangiles sont à peu près d'accord sur tout ce qu'a fait Jésus de son vivant. Dès qu'on parle du Christ ressuscité, plus aucun d'eux ne sont d'accord. Tous les récits divergent. Chacun perçoit le Christ ressuscité à sa manière. Et donc, enlevez tous ces récits d'apparition des apôtres et écrivez votre propre récit de comment vous, vous rencontrez Jésus. Et dites, tout ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas, moi je croirai ce que je vois, c'est-à-dire ce que je conçois, ce que je comprends, ce que je découvre de ce Christ ressuscité. Alors Thomas, c'est finalement quelqu'un de formidable. Il est plus mystique que discipliné. Et finalement, je vous ai dit tout à l'heure que l'évangile de Jean autrefois se terminait par ce passage-là. Et je trouve ça extraordinaire justement, que l'Église ait eu le courage de terminer l'évangile par un passage qui la remet en cause, et par un passage d'ouverture à autre chose et à l'invitation à s'approprier soi-même le texte dans quelque chose qui dépasse le texte lui-même. Une écriture qui nous renvoie à notre expérience personnelle et qui nous renvoie aussi à agir, je dirais, à la suite du Christ. Alors cette expérience, vous disais-je, elle se fait dans ce que nous ont dit les autres, certes, mais aussi dans l'absence, aussi dans le doute, dans le questionnement. Elle peut se faire aussi dans le péché et dans l'incrédulité même, oui, parce que le christianisme n'est pas un championnat. Le christianisme est l'œuvre simplement de gens qui cheminent avec ce que l'on est, avec tout ce que l'on est, tout sauf l'indifférence. Et donc, frères et sœurs, vos questions, vos interrogations sont bonnes. Cherchez à faire votre propre rencontre avec le Christ. Ne vous préoccupez pas de ce que disent les bons chrétiens sur ce que vous devriez croire. Croyez comme vous êtes. Voilà. Rencontrez le Christ comme vous le sentez. Et c'est bien comme ça. Et quoi qu'en disent les autres. Et ensuite, mettez vos mains dans ses mains, c'est-à-dire vivez concrètement cet évangile. Je dirais, mettez vos pas dans ses pas. Agissez comme il agit, suivez le Christ, et là, vous serez heureux, même sans avoir vu. Amen.